que ça commence comme ça.
Cette histoire-là.
Le 3 septembre.
Secondaire 3, 14, pas encore 15 ans.
Je suis là, en haut de la falaise. La falaise où il y a les grandes lettres blanches qu'on voit de loin, comme des dents, qui annoncent ce qu'il y a de ce côté-ci.
C'était un extrait de la pièce théâtrale d'Olivier Sylvestre intitulée « La loi de la gravité ». L'histoire d'une profonde amitié entre deux adolescents, Dom et Fred, une fille masculine et un garçon féminin. Entre histoire d'amour et de trahison et quête de genre, la pièce s'est jouée lundi 16 avril à 20h30 au Théâtre de la Tête Noire à Saron dans le cadre de l'ouverture du Festival de l'écriture contemporaine. Texte Avril. À la fin du spectacle, nous avons pu interroger les deux comédiens. Il s'agit de Quentin Laugier qui incarnait le personnage de Fred et Alison Valence qui incarnait le personnage de Dom. Écoutons-les.
Ouais, est-ce que vous avez choisi ce métier de comédien et ce qui vous plaît en fait, enfin, je dirais au quotidien aussi, le fait de passer devant une scène, d'être au contact aussi avec le public?
Je sais pas trop moi ce qui m'a plu. Je sais que j'ai commencé à en faire, c'est un peu un schéma assez classique, j'ai commencé à en faire tout petit et en fait j'ai un peu jamais arrêté. Je viens d'un tout petit village. Du coup ça a été un peu un moyen, très très vite j'ai compris que ça allait être un moyen de d'émancipation. En fait c'est très très con comme ça, mais c'est vrai, je pense que c'est un moyen de se cultiver, de s'élever, de changer de lieu. J'ai tout de suite compris que ça allait être quelque chose qui allait me permettre de changer de village, d'aller dans des villes plus grandes, de voilà. J'ai une espèce de... Moi j'ai un rapport très très affectif au théâtre pour ça, parce que je pense qu'il m'a permis d'aller toujours un petit peu plus loin.
Mais je comprends en fait, moi aussi ce truc-là, même si j'ai grandi à Paris. Donc du coup, j'avais... Enfin, bah justement, en fait, le fait d'avoir grandi à Paris, j'avais beaucoup... J'ai pu aller dans des très grands théâtres très tôt, découvrir vraiment beaucoup de spectacles et faire des ateliers avec des personnes hyper diverses dès mes 8 ans. Et en fait, ça m'a éclatée. Juste, je me suis dit, mais... Enfin, j'ai trouvé... puisqu'à l'époque, c'était une matière... à l'école, j'ai trouvé un endroit où je m'amusais sans cesse, et en plus on m'a dit que c'était un métier, donc du coup je me suis dit mais allons-y pour toutes les vies.
D'accord, et par rapport à la pièce d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez donné le meilleur de vous-même? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés pendant que vous étiez en train de jouer?
On rencontre tous les jours, tous les soirs, à chaque représentation, des difficultés qui sont différentes, et on donne toujours le meilleur de nous-mêmes à un endroit différent aussi. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que déjà c'est difficilement quantifiable le meilleur de soi. Ouais. Et donc du coup, voilà, je pense que ça se place à des endroits différents à chaque représentation.
D'accord. Et par rapport au jeu des personnages, est-ce que c'est pas souvent difficile de se mettre dans la peau d'un autre personnage? Toi par exemple qui jouait le garçon manqué, je veux dire, et lui qui jouait la fille...
Le jeune homme efféminé, c'est le travail de création, c'est le travail de répétition, c'est un travail qui est fait en amont et qui se continue pendant les représentations, mais pas dans la même mesure en fait. C'est vraiment un travail qui se fait en amont, qu'on a fait depuis la première résidence à La Rochelle en 2016, où petit à petit on a trouvé des petits détails qui permettaient aux spectateurs d'identifier facilement les personnages qu'on est, et nous même de directement, enfin moi je me prépare, et quel que soit l'endroit où je me prépare, quel que soit le théâtre, je re-rentre dans la peau de ce personnage là ça va être la coupe de cheveux, ça va être le maquillage, parce que j'ai un maquillage léger pour me masculiniser les traits.
Ouais.
J'ai le costume, la manière de parler, de se déplacer.
Je crois que c'est un peu la partie aussi la plus fun,
ouais,
la plus ludique en fait, la création du personnage. Parce que c'est vraiment un truc où on se dit, est-ce que ça va être le costume, est-ce que ça va être la démarche, à quel moment tu vois, à quel endroit je regarde, qu'est-ce qui le trouble assez pour qu'il arrête de regarder son partenaire dans les yeux, qu'est-ce qui le... Voilà, c'est plein de petits endroits où on est tout le temps dans la tentative, donc en fait, c'est la partie la plus fun, hein, de se dire qu'on va
pouvoir
se maquiller
partie.
Tous les soirs, ouais. Et se mettre un truc qui écrase ses seins pour faire... Enfin, c'est fun, c'est vraiment genre, pour le coup, renouer avec des trucs d'enfant, quoi.
Exactement, c'est la partie de recherche, en fait. C'est ça, bah, pour revenir à la première question qui nous éclate pas mal.
D'accord, et en représentation, est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous perdez vos répliques? Sinon, comment est-ce que vous faites pour gérer ce temps-là de perte de répliques?
Ça nous a jamais encore arrivé, je crois.
Avant?
Sur ce spectacle, ça nous est jamais arrivé.
Non, on n'a jamais eu de gros trous parce qu'on a fait un travail digne de l'armée avec notre metteur en scène sur l'apprentissage du texte. Je crois que ouais, c'est le texte que je sais le mieux de toutes les pièces que j'ai jamais jouées. Mais quand ça arrive, en général, on peut dévier du sens. On peut avoir des répliques qui sortent différemment par rapport à la plupart des représentations et ça nous perd pas en fait. Ça nous amène juste à un endroit différent.
Oui, et puis là, en plus, particulièrement avec ce spectacle, il y a un endroit où on est tellement libre et on est tellement un peu nous, on joue un peu aussi avec qui on est nous, qu'en fait, si les mots ils sortent différemment et qu'on sent que c'est pas une réplique, ça nous fait plus rire qu'autre chose, en fait.
C'est même ce qu'on cherche, en fait.
Oui, il y a des endroits où se déstabiliser, c'est bien aussi.
Vous avez pas mal parlé aussi du fait que la pièce soit particulièrement en fait, bien accueillie dans différents environnements, avec des scolaires. Y compris dans les prisons, c'est vrai qu'on est sur des thèmes un petit peu d'actualité, la construction de la personnalité, un peu le jeune âge, en particulier l'adolescence. Et c'est vrai qu'on a aussi des personnages en fait, qui sont en recherche d'identité. Vous, en fait, la fracture sociale, est-ce que c'était un thème aussi qui vous intéressait au départ en fait, pour jouer cette pièce, enfin, ce qui vous a vraiment donné envie de travailler ce texte, enfin, c'est un thème en fait, qui vous touche personnellement ou pas?
Oui, complètement.
Oui, oui, évidemment. Je m'attendais pas à ce qu'on soit à fond là-dedans. C'est-à-dire, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant la rencontre de genre de public. Ça a été un peu une surprise pour moi et je l'ai d'ailleurs pas forcément super bien vécu. Parce que j'ai toujours du mal à me retrouver dans des situations dures. Parce que je... Voilà. Mais c'est venu pendant la création où, oui, ça peut créer des échos chez des gens et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que ce truc de presque la ville, des villes de banlieue contre les grosses villes, contre en fait ça parle d'une manière plus large que ce qu'on peut penser, ça renvoie à beaucoup plus de choses intimes.
Toi, t'as fait plutôt dans du cinéma avant,
c'est ça? J'ai fait un peu des deux, ouais.
Ah, des deux. Et moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence entre le cinéma et le théâtre? Et pour toi, est-ce que c'est pas difficile de passer du cinéma au théâtre?
C'est, bah en fait, vu que c'est des modes de production un peu différents,
oui.
Bah du coup, c'est pas le même processus quand tu crées un personnage de théâtre et un personnage de cinéma. Au théâtre, t'as beaucoup plus de temps pour le créer, comme on disait tout à l'heure. Et au cinéma, tu dois être efficace beaucoup plus rapidement. T'as pas un mois de répétition pour être bien, en fait. Et tu peux avoir plusieurs prises pour avoir la bonne prise, mais finalement ça va être très peu comparé au nombre de représentations que tu vas devoir tenir. Au théâtre, il y a quelque chose où, il faut trouver la bonne prise, mais ensuite il faut savoir le refaire, il faut pouvoir le reproduire. Tandis qu'au cinéma, une fois que la prise est bonne, on passe à un autre plan en fait. Donc il y a cette différence-là. Et non, c'est vraiment finalement deux univers assez différents. Ce qui relie les deux, c'est bien sûr le jeu, mais c'est comme mais être joueur, ça me relie autant aux musiciens qu'aux sportifs. C'est là, c'est l'endroit de jeu.
Que vos expériences précédentes, en fait, soit dans le théâtre, soit dans le cinéma, ça a pu vous aider en fait pour vous mettre rapidement en fait, dans la peau du personnage?
C'est-à-dire, est-ce que nos expériences d'audition auparavant nous ont aidé pour...
Oui, parce que comme acteur aujourd'hui, vous êtes relativement jeune. J'ai l'impression que si je vous demandais en fait, votre âge ou si je vous donnais le mien...
Ça s'est passé... Mais est-ce que vous pouvez juste préciser un peu la question? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour, juste pour l'audition de la loi de la gravité ou pour tout le travail en général?
Pour cette audition-là, mais ce serait intéressant de voir aussi en quoi le vécu aussi, ça aide, l'expérience aussi, la construction de...
Ouais, je sais que c'est vraiment très ultra con, parce que c'est un peu ce que disent tous les trucs, c'est quand tu le veux pas que tu l'as. Là, c'est pas que je le voulais pas, c'est que comme je connaissais Anthony et son assistant, Louise Dudek, il y a un moment où j'étais complètement relax. Et j'avais lu le texte et je le trouvais assez fun. J'avais pas trop projeté dessus. Je voulais juste m'amuser. En fait, j'étais vraiment dans une période où je voulais arrêter d'être comédien en plus. Et donc, il m'avait proposé ça. J'étais en mode, allez, on le fait, on va bien voir.
Et c'est hyper marrant parce que moi, j'étais dans la démarche inverse. Moi, j'ai lu le texte et je voulais ne pas dormir pour pouvoir approfondir le texte et être sûre de ce que j'allais présenter le lendemain en audition. J'étais venue en audition. Il y a des auditions où, en effet, la plupart du temps, tu sais pas ce que les gens cherchent. Donc, tu y vas tel que t'es et puis tu relativises, en fait. C'est ce qu'on apprend avec l'expérience des auditions, en fait. C'est que la plupart du temps, ça ne dépend pas de toi. Ouais. Donc, fais ce que tu peux et puis après, oublie. Et si on te rappelle, t'es content, tu vois. Et là, en fait, moi, je m'étais mise dans la peau du personnage pour y aller. J'étais vraiment arrivée en mec. Je voulais pas enlever ma casquette de toute l'audition et je faisais la gueule. Alors que d'habitude, on t'apprend à sourire parce que tu vas passer du temps en dehors de la scène avec les gens que tu rencontres en audition. Donc du coup, il y a ce côté où normalement, tu dois te présenter sous ton meilleur jour. Mais voilà. Et ça a quand même marché dans nos deux cas opposés.
Et moi, je me demandais, vous avez suivi quelle formation? T'as fait une école de théâtre?
Oui, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait d'abord, comme je l'avais dit, au collège, à l'école primaire, au collège, au lycée en option lourde, à Victor Hugo, à Paris. Ensuite, j'ai fait le laboratoire de l'acteur dans le 11e arrondissement. J'ai fait ensuite le conservatoire du 14e arrondissement pendant quelques mois, cette fois. Et ensuite, la classe libre des cours Florent. Donc, j'ai fait pas mal de formations.
Et toi?
Et moi, j'ai fait aussi pas mal de formations. J'ai fait, pareil, enfance, lycée. J'ai fait une prépa lettres après option théâtre. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et après, en fait, j'ai fait 2 mois en fac lettres et arts. Et je suis parti directement dans une école de comédia dell'art et d'art de rue et d'acrobatie. Enfin, c'était un peu une école de saltimbanque, et après je voulais un peu bifurquer, aller vraiment dans le texte contemporain, et je suis rentré au studio de théâtre d'Anières. Voilà.
Et ma dernière question, est-ce que vous pensez que le métier de comédien,
tout le monde peut se découvrir la vocation d'être comédien?
Joli.
Mais après, en effet, c'est un métier de passion et, comme tu dis, de vocation. Je pense que si tu le veux, si t'as pas la nécessité de le faire, vraiment, que tu t'accroches pas, vaut mieux pas se lancer.
Ouais.
Pourquoi? Quelles sont les difficultés du métier selon toi?
Ça peut être très... ça peut être très frustrant. Sur beaucoup de points, ça peut être très 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 frustrant. Autant financier, parce que bon, voilà, ça n'est pas payé des milliers de cents. Et puis, ça peut être très frustrant, ça peut être un milieu très cruel, très injuste, très, très dur. Comme beaucoup de métiers, généralement, les gens me répondent, mais...
Oui, mais là, il y a une dimension, c'est quand même hyper paradoxal, parce qu'on nous demande d'être à vif sur le plateau, d'être complètement à fleur de peau et à nu, et d'être en même temps hyper blindé face à ce monde cruel où, c'est un métier où t'es tout le temps regardé, t'es tout le temps jugé.
Et tu dépends du désir des gens.
T'es tout le temps remis en question sur tout. Aucune stabilité, que ce soit financière ou affective, parce que dans tes rôles, on te pousse sans cesse à te remettre en question, à te re-questionner, à te demander qui t'es, qu'est-ce que tu vas devenir et tout ça. Enfin, tu fais le même travail que tes personnages. Et aussi, t'es toujours en déplacement. Nous, aucun de nous n'habite Orléans. Et c'est difficile. Ça peut être difficile de maintenir des liens que tu commences à créer. Nous, on est jeunes, mais qu'est-ce que c'est quand tu fondes une famille? Qu'est-ce que c'est quand tu dois entretenir un foyer? Il y a des gens qui le font. Mais voilà.
La question, c'était, est-ce que c'est pas finalement presque difficile à la fin de votre spectacle Vous êtes passé en fait par tellement d'émotions différentes, de manière vraiment rapide. Enfin, c'est impressionnant sur le spectacle avec le changement très rapide des mois. Et finalement, en fait, quand vous revenez un peu, je dirais presque à la réalité, vous avez du mal un petit peu à trouver votre...
Moi, je sais que ça me fait exactement le même effet. On en parlait avec Elisa Monteil, qui est Monteil, c'est ça, qui est notre
Monteil,
qui est notre créatrice sonore. Il y a un truc très similaire au sport pour moi. C'est-à-dire que tu sors de scène, c'est comme après avoir couru 50 minutes, t'as une espèce de
Montée d'adrénaline.
Ouais, une espèce de montée d'adrénaline où tu te sens bien, quoi.
Ouais.
Et puis,
grave.
Et puis tout va bien. Et c'est et pareil, hein, monter sur scène, être au présent, c'est comme dans le sport, c'est-à-dire qu'il faut enfiler ses baskets et descendre courir alors qu'il pleut dehors. Mais une fois que c'est fini, c'est vraiment.
Enfin, moi j'étais malade aujourd'hui. Et là, je pourrais partir. C'est vraiment hyper agréable comme sensation. C'est vraiment une montée d'adrénaline.
La montée d'adrénaline s'est également sentie du côté de certains spectateurs ce soir-là. Une spectatrice a témoigné de sa satisfaction au sortir du spectacle.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes satisfaite ou pas après avoir vu cette pièce théâtrale?
Ah ben moi j'ai l'impression d'avoir vu beaucoup de choses ce soir dans cette pièce. Hein. Il y a bien évidemment le thème de l'adolescence et toutes ces fragilités, ces incertitudes. Et puis le thème de l'amitié qui apparaît très fort dans cette pièce.
Justement, est-ce que vous avez déjà une idée de ce que c'est que l'écriture contemporaine à travers ce que vous avez vu? Enfin, quelle est l'image que vous donnez à l'écriture contemporaine?
Alors moi, c'est une question qui m'apparaît un petit peu comme difficile, mais je pense qu'elle est liée à la mise en scène de problématiques qui touchent à notre place dans la société. Hein, et je pense que cette question elle est particulièrement prégnante à l'adolescence.
Très bien. Et donc, est-ce qu'il y a des parties qui vous ont plu particulièrement lors de la représentation?
Alors, il y a des parties qui m'ont touchée particulièrement. C'est tous les passages où les deux jeunes gens évoquent la situation familiale qu'ils vivent l'un et l'autre, qui est difficile, et qu'on s'aperçoit que l'amitié qu'ils construisent peu à peu apparaît comme un rempart.
Peut-être que je vais aimer ça ici. On sait pas.
Tu serais bien le premier.
Le lendemain.
À 4 heures, je suis aux lettres. Liste de choses à faire. Remercier encore une fois mon rasoir. Regarder dans le frigidaire puis manger quelque chose de pourri parce que ma folle de mère a pas encore fait l'épicerie. Appeler papa puis l'accuser de m'avoir abandonnée quand j'avais 4 ans, comme ça, gratuitement. À la place, je regarde la ville de l'autre côté, toute la journée. Les oiseaux sont toujours là comme hier, à chercher des frites parce qu'il n'y a plus de poissons dans la rivière.
C'était un aperçu de l'ambiance paisible qui régnait ce lundi soir dans la salle de spectacle remplie de spectateurs. Une séance d'échange entre le public et les artistes a suivi. Ce moment a permis à Anthony Thibault, le metteur en scène, de parler de sa rencontre avec Olivier Sylvestre, l'auteur de la pièce. En voici un extrait.
Tout a commencé ici et c'est assez étonnant. C'était à Tex Avril il y a 2 ans, c'était cette lecture-là. C'était il y a peut-être 3 ans. Je travaillais sur justement avec l'équipe qui est ici, qui est des comédiens à l'époque, des comédiens permanents, sur un projet qui faisait des lectures dans une maison. Et j'ai entendu parler québécois. Il y avait un texte à 18h dans le salon québécois. Enfin, un texte québécois dans le salon à 18h. Et je suis allé le voir, je lui ai dit « Ah, je pense que tu es québécois. Et donc, viens voir la lecture à 18h. » Et je lui dis, viens voir aussi un texte que je lis dans la chambre pour enfants à telle heure. Et puis en fait, il est venu. Et notre rencontre a vraiment commencé comme ça avec Olivier. Et après, continuer un peu, avec Penda Diouf, du coup, que vous voyez vendredi, qui viendra lire son texte, on a monté un label d'écriture contemporaine qui s'interroge sur toutes les représentations, les stéréotypes, les représentations qu'on se fait du monde. Et Olivier nous a envoyé ce texte. Donc c'est comme ça, en fait, on l'a sélectionné en octobre 2015. Et on a commencé à faire la mise en scène de la petite forme qu'on a faite à la prison cet après-midi. On l'a créée à La Rochelle. Et cette forme-là, on l'a créée en septembre à Limoges, au Festival des Francophonies. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir deux formes. Une forme qu'on puisse faire voyager un peu partout. Et une forme où on rentre vraiment dans l'univers. Et voilà, et on a essayé de l'écrire à plusieurs, parce qu'il y a plein de personnes derrière, et d'écrire cet univers.
Nous sommes ensuite allés à sa rencontre pour qu'il puisse répondre à nos questions.
Alors c'est un métier assez large, mais en tout cas, ça commence par chercher de l'argent, chercher des lieux, et après, quand on a un texte ou pas de texte, en tout cas, c'est de créer une sorte d'univers où moi j'aime bien travailler sur les textes contemporains d'auteurs qui sont vivants et qui racontent des histoires d'aujourd'hui. Et donc c'est de mettre en lumière ces auteurs et de les promouvoir un peu partout. Voilà.
Et par rapport au profil, c'était pas difficile de choisir un peu les bons profils pour jouer le rôle de la fille masculine et le rôle du garçon féminin?
Donc j'ai fait des auditions, j'ai auditionné 5 garçons, 5 filles. Et Alison, c'était très drôle, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle était déjà le personnage. C'est-à-dire elle tirait la tronche, elle souriait pas du tout. Et elle est arrivée chez moi, elle avait plein de sacs, elle s'est posée dans le salon. Et puis elle attendait comme ça, elle attendait l'autre comédienne qui faisait sa réplique. Puis elle attendait, elle disait rien. Elle était en salopette, casquette, et puis voilà. Et à un moment, je me suis dit, ok, tiens, intéressante. Je suis allé la voir après, le lendemain, elle travaillait dans un théâtre, et je suis allé la voir. Et là, habillée l'inverse, tout en paillettes, la tête aux pieds. Et là, je me suis dit, mais c'est qui cette fille qui est capable de faire les deux rôles, enfin, pas les deux rôles, mais en tout cas, justement, de questionner cette féminité. Et puis Quentin, c'était à l'inverse aussi, c'est exactement la même chose. Bon, il n'est pas arrivé comme aussi surprenant que Alison, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait cette fougue, en tout cas, qu'il y avait cette énergie latente, enfin, qu'il est très dynamique. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était d'avoir deux corps totalement différents, deux façons de travailler différentes. Deux écoles de théâtre différentes aussi. Quentin vient plus du cirque, du travail sur le corps, alors qu'Alison est plus intellectuelle. Voilà. Donc, ça m'a semblé intéressant, de, comme c'est une pièce sur la différence, de travailler directement en choisissant deux comédiens différents. C'était une façon de déjà travailler ça.
Oui, je veux juste rappeler que ce spectacle s'inscrit dans le cadre du Festival de l'écriture contemporaine. Donc forcément, c'est du théâtre contemporain. Et forcément, nos auditeurs ne savent pas ce que c'est que le théâtre contemporain. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est?
Ça me fait rire parce que je crois que c'est très très dur de définir aujourd'hui le théâtre contemporain.
Quelle est la particularité du théâtre contemporain?
Pour moi, la particularité du théâtre contemporain, c'est que les auteurs sont vivants. Donc, il raconte quelque chose de la vie, quelque chose d'aujourd'hui. Voilà, moi, je suis toujours convaincu qu'il faut parler, en fait, pour que les spectateurs se reconnaissent ou en tout cas qu'ils se sentent proches des histoires qu'on leur raconte. C'est de raconter des histoires, oui, en effet, qui sont d'aujourd'hui et qui ne viennent pas de l'ancien temps. Et quoique c'est toujours intéressant, mais en tout cas qu'ils soient proches.
Enfin, vous allez me dire, en fait, si je me trompe pas, mais je crois que la pièce, en fait, elle a été primée par le CNP, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, elle a été... alors, c'est ici, au Théâtre de la Tête Noire, qu'ils ont sélectionné ce texte-là. Ensuite, il avait été sélectionné par le label qu'on met en place avec la compagnie, donc Jeune Texte en Liberté. Après, c'était le CNT. Ensuite, ça a été le Tarmac. Enfin, il a eu plusieurs prix. Et je crois que j'en oublie en plus, à chaque fois, je cite les plus importants. Mais en tout cas, le CNT, c'est que ça nous permet d'avoir de l'argent pour pouvoir faire le spectacle. Et aujourd'hui, c'est très important, en plus de sélectionner des textes, c'est de voir comment on peut rémunérer les auteurs, parce qu'ils reçoivent en même temps un prix pour leur écriture, parce que les auteurs aujourd'hui ont énormément de mal à se rémunérer. Et en même temps de l'argent pour pouvoir créer le spectacle, et cet argent était essentiel en tout cas pour nous.
D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer pour vous les raisons aussi de ce succès? Il y a un thème très universel. Enfin, on voit que c'est une pièce en fait, qui parle à plein de profils différents. Donc, il y avait des jeunes de monde de la scène, vous l'avez joué dans les prisons. Enfin, il y a vraiment quelque chose, je dirais, qui fait écho à l'actualité. Pour vous, c'est un peu la raison aussi du succès?
Je pense que c'est un texte qui parle de la différence. Et je crois que la différence, en fait, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire on se sent toujours différent. Ou en tout cas, beaucoup de personnes nous mettent face à nos différences et qu'en fait, on cherche, que ce soit notre couleur de peau, que ce soit notre sexe, notre orientation sexuelle, notre genre, notre économie, etc., de quelle classe sociale. On nous met tout le temps dans des catégories et je crois que ça concerne tout le monde de réinterroger ça, et ou en tout cas d'avoir, qui on est et est-ce qu'il ne faut pas s'assumer tout seul et face au monde. Et bon, là ils se retrouvent à deux et c'est encore plus facile de se retrouver à deux, mais en tout cas il faut qu'ils fassent le travail eux-mêmes individuellement.
Est-ce que aussi dans votre métier, est-ce que avant de vous diriger un peu, je dirais, vers le métier de metteur en scène, est-ce que aussi vous aimez être un petit peu dans la formation, dans la transmission? Il y a des rencontres avec le public, mais vous passez beaucoup de temps avec les acteurs, quelque part aussi, est-ce que pour vous le théâtre aujourd'hui, ça n'a pas aussi une mission d'enseignement, un petit peu de transmission aussi?
Alors je suis pas sûr que ça soit une mission d'enseignement. Je pense que c'est plutôt, moi ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir les regards, ou en tout cas de pas les refermer, et je crois que c'est ça dans la transmission, c'est-à-dire de se dire tiens, il y a peut-être autre chose. Voilà. Ne pas s'arrêter en fait à une chose précise, à une catégorie, une pensée unique, etc. Mais qu'en tout cas, dire qu'il y a des multiples, des possibles. Et je crois que le théâtre est fait pour ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, notamment à Limoges, j'ai fait une formation académique pour les professeurs qui allaient accueillir la forme, la petite forme, dans leur classe. Donc c'était aussi pour eux les aider à préparer leurs élèves, à mieux accueillir et à mieux transmettre, notamment tout ce qui m'a semblé important dans ce texte. Et puis oui, je crois que le théâtre aujourd'hui, ou en tout cas moi dans ma compagnie, dans la compagnie La Nuit de Soupir et dans Jeune Texte en Liberté, c'est pour qui on parle et à quel endroit on parle. Et je crois que ça, c'est vraiment une question, et qu'à partir du moment où on est sincère et où on sait exactement d'où vient la parole et qu'est-ce qu'on veut raconter, je crois qu'à partir de ce moment-là, on veut le transmettre partout. Et en tout cas, les questions arrivent à beaucoup de personnes.
Moi, est-ce que vous pensez que Test Avril, c'est une bonne initiative pour déjà mettre en avant les pièces théâtrales, l'écriture aussi? Quel est votre avis?
Alors aujourd'hui, l'écriture contemporaine est défendue par très très peu de personnes. C'est-à-dire qu'on revient, c'est un glissement en fait depuis quelques années, par la logique en fait commerciale et surtout du remplissage de salles. Beaucoup de directeurs et directrices ne prennent pas le risque en fait de prendre des auteurs et autrices contemporains, et qui a cette peur de l'étrangeté, de la question d'aujourd'hui, de la société, et qu'on s'attache par des valeurs sûres, c'est-à-dire du Racine, du Shakespeare, du Molière, et qu'en tout cas, les paroles d'aujourd'hui, elles font peur. En tout cas, moi, chaque fois que je rencontre des directeurs et des directrices, c'est ça, c'est de « Ah tiens, c'est pas pour mon public », ou en tout cas, il y a quelque chose dans l'écriture contemporaine qui fait peur. Et je trouve que Texte Avril, ou en tout cas le théâtre de la Tête Noire, est unique en ça. C'est-à-dire qu'ils ont un comité de lecture qui est très très vieux, et qui a fait sa petite place. Et on en rediscutait encore cet après-midi en attendant à la prison. Il y avait comme s'ils étaient les premiers découvreurs en fait d'un texte. Et qu'en fait ce texte va être lu par d'autres metteurs en scène, par des metteuses en scène, et que ça va être découvert, que ça va voyager ensuite. Mais en tout cas, il faut toujours une personne qui soit à la base de ça, et aujourd'hui il en manque, et je pense qu'il se compte sur le doigt de la main. Donc en effet, je pense que Texte Avril a sa place, et voilà, il faut que ça continue encore, en tout cas, moi je le vois, hein, c'est le texte d'Olivier Sylvestre. Et notre rencontre avec Olivier Sylvestre s'est faite ici. Donc pour moi, ça a une importance en fait, de revenir jouer ici.
Mais lorsqu'on joue dans une prison, est-ce qu'il n'y a pas encore plus d'exposition, plus de risques encore pour le metteur en scène ou les acteurs?
Je crois que le risque est vraiment pour les comédiens. C'est-à-dire, moi j'ai fait mon travail, et à un moment, ils sont tout seuls face au public. Quand on joue la forme mobile, en fait, on joue avec les projecteurs, enfin avec les lumières des salles. Là, en prison, on ne pouvait pas jouer avec les interrupteurs. Donc, il y a ce rapport, en fait, frontal et qui... Il n'y a pas de filtre ni pour les spectateurs, ni pour les comédiens qui peuvent se cacher derrière la lumière. En tout cas, c'est eux avec eux-mêmes. C'est très, très dur et il n'y a pas de protection. Il n'y a aucune protection. À part juste le texte et le personnage qu'on a créé. Sauf que le souci, c'est que ce texte oblige en fait un investissement tel chez les comédiens qu'ils sont obligés de mettre de l'intime ou en tout cas de savoir. Mais en tout cas, c'est qu'ils posent en tout cas beaucoup de questions qu'est-ce que c'est leur intimité, etc. Ça les bouscule aussi de l'intérieur. Et c'est vrai que la forme mobile, elle a ce truc de déplacer et les comédiens et les spectateurs. En tout cas, on a toujours des réactions très fortes. On sent, tiens, là aujourd'hui en prison, les femmes se sont mises à rire quand Fred dit « Je veux juste être un gars » et qui se met à hurler, elles ont explosé de rire. Ça traduit de la gêne. Alors gêne par rapport au fait, est-ce qu'il hurle? Est-ce que c'est être un gars? Ça veut dire quoi être un gars? Enfin, en tout cas, c'est que ça, on voit tout de suite là où ça déplace, où ça questionne, où ça vient titiller le spectateur. Et je crois que c'est en ça que ça... Moi, j'aime bien la petite forme parce qu'elle sort de tout ce qu'on a l'habitude de voir et de ressentir en tant que spectateur et en tant que comédien, comédienne et metteur en scène.
Pour terminer, écoutez l'interview que nous avons faite du directeur du théâtre de la Tête Noire, Patrice Doucher.
L'église, ben, je dirais, ça donne libre cours à plus d'inspiration, plus d'audace en fait, aussi dans le choix de la programmation.
Ah, je ne sais pas si c'est plus d'audace. Disons que le lieu, je le connais bien puisque je l'ai un peu fabriqué. Puisque quand je suis arrivé ici, c'était vraiment une église. Ce n'était pas un théâtre-église, c'était une église. Donc je le connais par cœur, cet endroit. Je crois que l'audace, non, c'est pas le lieu, quelque chose qui a toujours été qui a été lié à mon parcours, quoi. J'ai toujours voulu explorer des terrains inconnus un peu. Voilà, après, il se trouve que souvent ça a été en accord avec ce lieu-là. Voilà, je trouve qu'il y a une belle rencontre entre un lieu qui est historique et des propositions intérieures qui sont très, très d'aujourd'hui, très contemporaines, quoi. Donc j'aime bien ce frottement entre le passé et le présent.
D'accord. Et pourquoi avoir eu l'initiative de consacrer un temps pour le Festival de l'écriture contemporaine ?
En fait, on lit toute l'année, on lit beaucoup de textes. On lit énormément de textes de théâtre. Et je trouvais que c'était important qu'il y ait une semaine où on puisse faire partager au public nos choix de lecture. Après, il y a les autres moments de la saison où on programme aussi des spectacles. Mais là, voilà, on lit, je ne sais pas, de 150 textes par an, 200, et se dire, on va en choisir quelques-uns, ceux qu'on a préférés. Pour les spectateurs, c'est exaltant. C'est une façon de faire rentrer le public un peu aussi, un peu plus au fond de notre histoire. sommes des grands lecteurs ici.
D'accord. Et c'est quoi l'écriture contemporaine?
C'est tellement vaste. C'est, pour moi, c'est, la définition, c'est des auteurs ou des autrices qui parlent du monde d'aujourd'hui, qui nous questionnent sur, sur notre vie aujourd'hui. Après, forcément, j'aime bien les classiques aussi. Hein. Je sais pas, mais voilà, il y a tellement de belles choses qui s'écrivent. Le monde est, on le sait, hein, il n'est pas facile à vivre. Les auteurs, ils explorent tout un tas de questions qu'on peut se poser. Ce soir, c'est des questions sur le genre, sur l'identité. Il y a des questions qui se posent sur l'écologie, il y a des questions qui se posent sur l'avenir du monde, des questions qui se posent sur la paix dans le monde, sur la tolérance, sur l'amour. Sur... On n'en a jamais fini. Avec et moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des textes qui parlent à la génération... Quand je dis 15-25 ans, je pense que c'est la génération qui peut agir encore, qui peut... Alors on peut tous agir, mais c'est celle qui a encore la possibilité de changer un petit peu les choses. Donc voilà, j'aime bien...
Oui, parce que moi, si vous voulez, j'ai lu quelques classiques, mmh. Et le théâtre classique allait plus dans la... Je veux dire, on respectait plus les critères de unité de lieu, mmh. Unité de temps, mmh. Une seule action.
Oui.
Donc je me demandais, est-ce que le théâtre contemporain respecte aussi ces critères-là? Non?
Pas forcément, mais les classiques de demain, ce sont les contemporains d'aujourd'hui. Molière a été contemporain en son temps.
Oui,
ce qui est important, ce qui fait que c'est une œuvre, c'est que 4 ou 5 siècles après, on lit encore Molière. Est-ce qu'aujourd'hui, la pièce qu'on a entendue ce soir ou celle qu'on entendra demain, elle supportera d'être lue dans 100 ans, dans 2 siècles? Je ne sais pas. C'est ça qui fait... On ne sait pas un classique, avant d'être un classique, c'est un contemporain.
C'est ça.
Et ça, c'est... En tout cas, c'est passionnant de se dire, ah, il faut qu'on trouve peut-être la pièce qui va rester.
Ça me fait penser à, je ne sais pas si c'est une citation, le roman ne meurt jamais.
Oui. Oui. En fait, je crois qu'un bon texte n'est pas... il peut être contextualisé, c'est-à-dire qu'il y a des pièces qui se passent à une certaine époque, si c'est sur la guerre en Irak, la guerre en Syrie, si c'est pendant je ne sais pas quoi, la première fois que l'homme a marché sur la Lune, pendant... ça peut être contextualisé, mais ce qui fait que sa qualité, c'est que en le lisant 30 ans, 40 ans, 50 ans après, on sait que c'est contextualisé, mais ça parle encore. Les grandes pièces de Racine, de Corneille, nous parlent toujours, même si ça nous parle de guerre, la guerre de Troie, ou le voyage d'Ulysse. Il n'empêche que il faut toujours que ça résonne au moment où on la lit, où on l'entend. C'est ça qui fait une œuvre. Après, le reste, c'est anecdotique. C'est pour ça que c'est difficile de parler de l'histoire quand on est collé à l'histoire. Parce que quand on parle de l'histoire immédiate, on n'a pas de recul. Donc ce qu'on va en dire, 10 ans après, on va apprendre que c'était faux. Aujourd'hui, avec la désinformation, la mauvaise information, tout ce qu'on nous cache. Donc...
Mais sinon, selon vous, la thématique qui a été représentée aujourd'hui, est-ce que c'est une réussite ou c'est un échec pour vous?
Moi, j'aime bien la réussite, c'est le public qui l'écoute du public. Hein. Je disais, aussi bien cet après-midi au centre de détention qu'ici ce soir, il y avait des jeunes hein, qui sont d'un collège pas très loin, qui n'est pas un collège facile, hein. C'est pas un collège de centre-ville, c'est pas... Et l'écoute, elle était là au début. Ça me parlait un petit peu, puis très vite, les jeunes se sont tus. Parce que je pense qu'évidemment, cette histoire de genre, ça ne peut pas laisser indifférent. Tout le monde a des doutes là-dessus, enfin, ou a des inquiétudes, des questions sur est-ce qu'on est une fille, est-ce qu'on est un garçon, est-ce qu'on aime les filles, est-ce qu'on aime les garçons, est-ce qu'on aime les deux. Je disais à la comédienne qu'à un moment, je sais que c'est une comédienne, mais à un moment, je suis complètement troublé dans le spectacle. Je ne sais plus si c'est une femme, un homme qui joue, si c'est une comédienne, un comédien.
C'était ça le but, hein, captiver le public.
Le troubler. Lui faire se poser des questions sur notre seuil, notre tolérance aussi. d'accepter, ce qu'on dit toujours, accepter l'autre, ça c'est des mots. Comment on réagit face à quelqu'un qui a choisi d'être, enfin qui a choisi, qui n'a pas choisi, qui est différent.
C'est ça.
C'était un reportage sur l'ouverture de Test Avril, le festival de l'écriture contemporaine, avec la pièce théâtrale d'Olivier Sylvestre, La loi de la gravité. Toujours dans le cadre de ce festival, vous êtes invités à assister à d'autres programmes d'écriture et de spectacle. Le festival se clôture le samedi 21 avril. Ne manquez pas au rendez-vous. Pour des informations supplémentaires, vous pouvez contacter le 02 38 73 02 00 ou alors par mail contact@théâtre-tête-noir.com. C'était Oscarine pour Radio Campus Orléans.